première.
Oui.
Oui, oui.
22h, 23h. Par oui dire.
Pascal Tison.
Dis-moi. Par oui dire.
À la Centrale pour l'art contemporain à Bruxelles, jusqu'au 27 mai, 11 collections bruxelloises d'art contemporain.
Après l'exposition du prix Marcel Duchamp, nous avions, enfin dans le cadre, nous avions organisé une journée de rencontre avec des collectionneurs français et belges.
Karine Foll.
Et certains collectionneurs ont été trouvés la ville de Bruxelles pour parler d'une éventuelle collaboration pour le bâtiment Van der Borcht. Et Leschfield m'en a parlé et j'ai dit que moi j'étais vraiment intéressée de faire quelque chose autour des collectionneurs ici à Bruxelles. Donc le noyau de collectionneurs vient de là. Et puis par le biais de contacts, d'autres collectionneurs ont été invités à participer à ce projet. Ils ont tous accepté de faire partie de cette composition parce qu'il y a quand même beaucoup d'œuvres. Il y a 250 œuvres dans l'exposition. De montrer, justement, par le fait qu'il y ait tellement de collections, la diversité et l'identité de chaque collection, ce qui était mon objectif. C'était que, pour moi, on ne peut pas voir une collection sans voir le collectionneur, finalement. Chaque collection est comme une œuvre d'un collectionneur. Et c'est ça aussi que je veux montrer dans cette exposition.
Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58 ?
Absolument.
Des places de Belgique.
Les Kaliskis.
Mon œuvre.
Allez, on s'occupe.
Une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture.
Aleschinski.
Authentique, me tento, me tento, me tento, stélé.
Le monde invisible.
À la Centrale pour l'art contemporain à Bruxelles, jusqu'au 27 mai, 11 collections bruxelloises d'art contemporain. Avec Karine Foll, Yolande de Bontrider, Constance Godot, Olivier Gévard, et Christophe Weiss. Le Monde Invisible est une émission de Thierry Genicot. Le Monde Invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques. La voix qu'on entend, Yolande Bontrider, c'est la voix de qui ?
C'est la voix de Constance Godot, qui est une élève en master au Conservatoire de Mons.
Alors, pour qui lit la presse, apparaît des noms de gens très très fortunés, hein, qui sont des industriels et qui ont des collections infinies. Or, les collectionneurs qui sont présentés à la Centrale ne sont pas de cet acabit.
Il y a divers types de collectionneurs. C'est ça, je crois, qui fait la richesse de cette exposition. Il y a des budgets différents. Il y a un jardinier collectionneur. Il y a un professeur d'histoire de l'art contemporain collectionneur. Et puis, il y a aussi des plus grosses fortunes, en effet, qui ont accepté de montrer leur collection. Mais c'est aussi une manière de casser cette idée reçue sur ce qu'est un collectionneur, qu'il faut être fortuné par définition, qu'il faut directement avoir des collections avec des pièces d'artistes très, très connus. On voit ici des collectionneurs qui ont choisi des pièces beaucoup plus modestes, qui sont très proches des artistes aussi, et pas seulement des grands noms, pas seulement soutenus par les grandes galeries, mais aussi parfois des collectionneurs comme Frédéric de Goldschmidt. Il a aussi bien une œuvre de Cy Twombly dans l'exposition qu'une étudiante qui vient de sortir de la Cambre. C'est ça aussi la richesse d'une collection, c'est à travers cette diversité de montrer l'authenticité et l'identité de cette collection-là.
Yolande Bontrider.
Comme j'ai choisi cette pièce-là pour illustrer mon propos dans l'interview au sujet des collectionneurs, Constance m'a proposé de venir l'interpréter dans mon espace ici à la Centrale. Sequenza 3 de Luciano Berio.
Et quelle est la relation entre Berio et les œuvres de votre collection ?
Je pense qu'il n'y a pas de relation, si ce n'est que c'est contemporain. J'aime les dissonances et peut-être que dans ma collection, il y a aussi des dissonances. J'ai constaté en mettant la collection ici, en dehors de mon espace de vie, qu'il y avait trois axes principaux. C'est d'abord l'art abstrait construit, que j'aime beaucoup. Et donc, on retrouve des pièces de Jo de Lahaut, de Jean Glibert, de Anne Wester et de Janine Cohen. Ensuite, tout ce qui a rapport à l'être humain, à l'âme, à l'intime. Et c'est comme ça qu'on retrouve des pièces de Gudni Rosa Egmar de Tyr, de Bénédicte Enderic, de Jeff Gaze.
Donc c'est, je crois, un petit peu grâce à elle que nous sommes présents dans cette exposition-ci, puisque c'est Yolande qui nous a présenté à Karine Foll, la curatrice de l'expo.
Quel regard portez-vous sur... la collection de Yolande Bontrider.
Edith De Kint.
Une collection qui fait sens parce qu'on a toutes les deux des affinités artistiques en commun et donc je pense que c'est pas un hasard qu'elle m'ait appelée pour que j'intervienne. Il y a un côté géométrique, il y a un côté aussi abstrait parfois et je trouve que, en tout cas moi, ça se recoupe dans mon imaginaire d'artiste et donc on avait ça en commun.
Tout cela a rapport à l'être humain. Et alors un troisième axe que j'ai découvert et que je n'avais pas spécialement développé, c'est le côté politique des choses. Et on trouve des œuvres de Inchi Eviner, de Mendy Bekov, qu'on retrouve aussi dans des galeries ici à Bruxelles depuis quelques années.
En interrogeant Yolande Bontrider, elle évoque et elle insiste là-dessus sur son rôle de mécène auprès des jeunes artistes. Une collection qui se fait sans beaucoup de moyens,
oui.
mais pour aider les tout jeunes.
Oui, en effet. C'est son cas. C'est le cas de plusieurs collectionneurs présents dans cette exposition. Le nom de Frédéric de Rochemitte revient, qui a été aussi mécène pour la Biennale de Venise, pour la participation de Vincent Mécène. Certains collectionneurs, comme Alain Servet, vont même parfois plus loin en accueillant chez eux des artistes qui sont quasiment en résidence. À Paratis 22, ils vivent déjà depuis quelque temps dans le loft d'Alain Servet.
Constance Godot.
Et vous êtes chanteuse?
Tout à fait, tout à fait, tout à fait.
Ils ont rapport à la migration d'abord, mais j'ai choisi le dessin de Inchi Eviner pour son esthétique d'abord, et ce n'est qu'aujourd'hui, quelques années après, qu'il a pris tout son sens avec toutes ces émigrations. Et l'autre, Mendy Bakoff, c'est justement l'évolution de la sculpture officielle en Russie, où les socles restent, soit ils sont augmentés, mais où les sculptures changent d'après les régimes.
Et alors elle me paraît, oui, très engagée sur un très long terme, avec peu de moyens financiers, et sur la scène belge aussi.
Comme des boules de billard qui ont été façonnées et taillées. Et donc ce que je trouve incroyable, c'est qu'on découvre tout un camélo de couleurs, de formes différentes à l'intérieur. Et ça en fait des objets complètement détournés. Et j'aime aussi le côté déstructurer quelque chose qu'on connaît tous, qui est la boule de billard. Voilà.
Comme ça, des tas d'artistes connus, moins connus, encore de maintenant, elle achète encore maintenant, avec des moyens aussi financiers plutôt faibles comparés à d'autres collectionneurs, mais avec une sorte d'engagement et d'enthousiasme. Et donc je crois que ça, c'est vraiment, pour Yolande de Bonrider, c'est vraiment à l'instinct, oui. C'est vraiment les choses qui lui plaisent, sans questionnement sur... Donc c'est très franc et très, très honnête comme collection. Oui.
Quel est l'avenir de votre collection, Yolande de Bonrider?
Je voudrais quand même préciser que je ne me suis jamais considérée comme collectionneur, et que toute ma collection, puisqu'on l'appelle comme ça aujourd'hui, elle est partie d'un soutien d'abord aux artistes, aux jeunes artistes. J'ai toujours acheté des œuvres pour qu'ils puissent continuer leur travail. Il se fait qu'après 25 ans, bien sûr, il y a beaucoup d'œuvres, et je dirais tout à fait honnêtement, je ne pourrais plus acheter les œuvres que je possède aujourd'hui, je ne pourrais plus les acquérir parce que ces artistes ont pour certains une renommée internationale et donc les prix ont terriblement augmenté.
Alors Yolande de Bonrider dit que sa collection est faite aussi pour aider des jeunes artistes à démarrer, une sorte de mécénat, on va t'en dire. C'est votre cas?
Alors, c'est notre cas assez fortement, mais plus par l'achat, c'est plutôt via l'été 78.
Je me suis toujours considérée comme jeune collectionneur, et encore maintenant, puisque en achetant des œuvres à des jeunes et en leur permettant de continuer leur travail, ces œuvres ne sont pas chères et elles sont accessibles à tous.
Comment regardez-vous les choses? Vous allez dans les ateliers, dans les écoles? Vous allez aux portes ouvertes dans les écoles ou bien dans les galeries émergentes?
C'est exactement ce que je fais. Je vais dans les jurys des écoles d'art, les expositions des jeunes émergents dans les galeries. Il y a tout un aspect de collectif d'artistes qui ne sont ni les galeries, mais des artistes qui se mettent ensemble dans leur atelier pour montrer leurs œuvres. Et je pense que c'est un vivier très intéressant pour l'avenir et l'achat des œuvres d'art.
Alors vous qui êtes observatrice de la scène artistique contemporaine, aujourd'hui, la jeune génération, que dit-elle?
Mais je pense qu'elle travaille toujours comme par le passé, en se référant à l'histoire de la peinture pour certains. Mais les formes de peinture se traduisent autrement avec les matériaux et les médiums d'aujourd'hui. Je pense que, évidemment, il y a des nouvelles technologies, donc il y a des œuvres magnifiques dans les nouvelles technologies. Il y a aussi la performance qui prend aussi une certaine place aujourd'hui, mais la performance a existé de tout temps. Donc je pense qu'il y a un renouveau dans les formes et les médias d'aujourd'hui.
J'ai un gros problème financier dans ma vie et je me suis dit il faudrait que tu arrêtes, Christophe, de collectionner. Et je venais de faire l'acquisition de cette vidéo de Christina Garrido.
Christophe.
C'est une vidéo qui parle d'un principe assez simple. Donc elle a fait ses études, des études très classiques de peinture en Espagne. Et ensuite, elle est partie en troisième cycle à Londres. Et à Londres, ses profs n'arrêtaient pas de dire « Mais Christina, tu devrais être un peu plus originale. » Et donc elle s'est dit, mais en fait ces gens ne comprennent rien à l'art contemporain. Quelle est l'importance de cette notion d'originalité? Et donc pendant 4 ans...
C'est la définition juridique d'une œuvre d'art, mais...
Voilà, mais ça a été un peu dépassé depuis, dans les faits. Et donc le principe, c'est que pendant 4 ans, elle a surveillé 4 ou 5 sites, blogs d'art contemporain qui référencent énormément d'expositions. Et elle a trouvé 21 tics de l'art contemporain. Il y a les objets sur roulettes, les drapeaux, les ventilateurs, les animaux, les plantes vertes. Et donc, à chaque fois, elle défile les pièces en néon, par exemple, et on va avoir toute une série de pièces en néon. Ce que j'adorais, c'est que ça reprend à la fois des artistes que j'ai dans ma collection, des gens que j'ai voulu acheter, mais j'avais pas l'argent pour les acheter. Ça reprend aussi les lieux d'exposition. C'est une histoire des lieux d'exposition. Cette pièce est tellement magique qu'à un moment, je me suis dit, mais Christophe, tu pourrais t'arrêter sur celle-là. Arrêter, appuyer sur pause pour ta collection. Ça te ferait du bien, comme être humain. Bon, il est certain que, genre, 3 semaines après, j'avais un nouveau coup de cœur et ça n'a pas fonctionné. Mais quand Karine Fon m'a dit que j'allais être dans cet espace, et donc comme il y a un système de projection, je me suis dit que... Il n'y allait avoir qu'une seule vidéo et je me suis tout de suite dit que ça devrait être celle-là. Parce qu'il y a plusieurs vidéos dans la collection, mais je me suis dit que celle-là parlait de tellement de choses. Que... Et puis, en somme, on peut retrouver toute l'expo aussi dans une grande partie des productions présentées dans l'expo, dans cette vidéo. Il y a aussi une pièce qui est une leçon pour les collectionneurs, qui est la pièce de Stéphane Bruckmann, qui est la pièce textuelle que vous avez là, où il y a juste écrit que les œuvres, maintenant je le dis de mémoire, les œuvres meurent, je ne sais plus le terme,
sont
détruites lorsqu'on ne les regarde pas et sont restaurées lorsqu'on les regarde. C'est une leçon pour un collectionneur qui ne vit pas avec ses œuvres et qui leur fait donc beaucoup de mal.
Un peu à la Kader Attia, n'est-ce pas?
Oui, il y a une violence comme chez Kader Attia, éventuellement, et la restauration, alors le travail de reprise, en tout cas, qui existe chez Attia. Si ce n'est que là, c'est juste une sorte de pièce slogan, hein, donc il n'agit absolument pas.
Soigner, n'est-ce pas?
C'est soigner, ouais. En effet.
Prendre soin. Parlons, Karine Fol, de ce qui est montré à la centrale concernant ce professeur d'histoire d'art contemporain.
Une approche tout à fait intéressante. En fait, l'exposition s'est montée d'une telle façon que je ne me suis pas imposée comme commissaire d'exposition. Pour certains collectionneurs, ils m'ont laissé une carte blanche totale. Donc là, c'est vraiment moi qui fais les choix. D'autres collectionneurs, comme ce professeur, donc Christophe Hesse, pour ne pas le nommer, avait déjà une idée bien préconçue. Parce que quand je lui ai demandé de participer à l'exposition, je lui ai dit que je voulais cerner l'identité de la collection. Et directement, il a eu cette idée magnifique de nommer sa participation, la collection invisible. Ça correspondait aussi à ma vision des choses, dans la mesure où, pour chaque collection, j'ai donné un titre. Et dans ce cas-là, c'est lui-même qui l'a choisi. C'est le seul collectionneur qui a choisi lui-même le titre de sa participation.
Je disais dans une interview que les pièces sont comme mes enfants, mais je les enverrai dans un pensionnat en Ouzbékistan sans jamais les voir, puisqu'elles vivent dans un stock.
Vous avez lu Jean-Jacques Rousseau ?
Non, je n'ai pas lu Jean-Jacques Rousseau, et on m'en a parlé il y a 2 jours. Donc il est temps que je le lise. Parce qu'il y a une pièce qui parle de... du rapport à la pédagogie. Donc il y a une pièce de Marc Buchy.
Oui, et en plus, Jean-Jacques Rousseau a tout à fait négligé ses enfants.
Ouais. Tout en écrivant sur l'éducation.
J'adore cet homme.
La raison pour laquelle il est présent aussi, c'est parce qu'il trouve que les œuvres sont assez hermétiques, en effet très conceptuelles, et donc peut-être pas toujours compréhensibles pour les spectateurs. C'est pour ça qu'il est présent, pour expliquer cette collection.
La pièce de Marc Buchy, quelqu'un m'a parlé de Rousseau à cause d'elle, parce que j'ai acheté cette pièce en ayant une sorte de leçon, parce que c'est un protocole, c'est plutôt un certificat d'authenticité où il jure qu'il n'apprendra jamais à danser. Or, c'est l'une de ses passions dans la vie. Donc, dès qu'il y a une soirée, visiblement, il est déchaîné en termes chorégraphiques, mais il n'y a eu aucun apprentissage scolaire. Et donc là, il formalise le fait qu'il n'apprendra jamais ça. Et moi qui suis prof, et souvent les profs, on a la sensation que si on ne passe pas par des codes bien précis, les gens sont en déshérence. Eh bien, c'était une grosse leçon que de dire « mais non, on peut profiter des choses ». Et il y avait deux pièces comme ça. Il y a le fait de regarder les étoiles et le fait de danser. Et j'ai fait l'acquisition de celui de la danse.
Il a aussi fait un feuillet sur lequel il explique, c'est une lettre aux visiteurs, dans lequel il explique ses choix et il explique chaque pièce.
Ma collection s'appelle « Collection Face Verhavert ». Donc j'affirme ce caractère de collection. Je sais que de plus en plus des gens aiment à privilégier le terme d'amateur parce que le collectionneur aujourd'hui s'est entaché en quelque sorte d'une orientation très économique et des gens qui placent leur argent dans les objets. Je pense que ce terme est noble. Amateur est noble aussi, hein, soyons clairs. Mais collectionneur, pour moi, ça me va très bien. Je suis un collectionneur. Il y a 350 œuvres dans la collection, même un peu plus, et elles forment un tout cohérent.
Qu'est-ce qui unit les pièces, Christophe Weiss?
Une poésie du presque rien et du quotidien, ça pourrait être le fil conducteur. Et dans l'exposition, ce qui relie les pièces, c'est en fait c'est la nouvelle de Stephen Zweig, qui s'appelle « La collection invisible ».
Mais ce qui m'a fort touchée, c'est le titre, évidemment, de sa collection, La collection invisible, qui fait référence, comme il vous a sûrement expliqué, à cette magnifique nouvelle de Stephen Zweig qui parle de ce collectionneur devenu aveugle qui explique à un visiteur toute sa collection de gravures de A à Z, de la première à la dernière, alors que plusieurs pièces ont été vendues pour des raisons financières par la famille à son insu. Et c'est aussi ça, une collection. La collection, elle ne vit pas simplement visuellement dans un intérieur dans lequel on vit, mais c'est aussi quelque chose qui existe, comme le dit Christophe, dans son cœur et dans son esprit, finalement. Et ça fait partie de la personne. Et c'est ça que j'ai voulu aussi montrer dans cette exposition.
Je me suis rendu compte que j'étais comme ce héros, c'est-à-dire que j'avais ma collection par cœur, en tête et dans le cœur. Et que la nouvelle parle de relations aux autres, de collection, d'invisibilité, de trahison familiale, en somme, tout ce qui constitue la personne que je suis. Ça, c'est le fil conducteur de cette sélection qui représente moins d'un dixième de la collection.
Alors, ce qui est encore tout à fait magnifique, c'est que Christophe est toujours présent quasiment tous les jours que l'expo est ouverte au public. Il est là et il explique cette collection invisible, alors qu'il se dit être très timide. Finalement, c'est quand même lui qui est le plus présent et qui est le plus en lien avec les spectateurs. Parce qu'une exposition, et ça, moi, je le ressens aussi comme ça, c'est vraiment un partage.
En fait, les gens ne posent pas de questions. Les gens sont très timides. Et comme je suis timide moi aussi, j'ai des stratégies pour aller à leur rencontre. Et notamment la pièce d'Aurélien Froment, qui est juste derrière nous.
Et ici, plusieurs collections ont vraiment dit la chose, c'est qu'être collectionneur, c'est pas simplement posséder les choses, mais c'est aussi les passer aux autres. Et ça, Christophe est l'exemple emblématique de cette passation et de cette volonté de partager sa passion pour l'art.
Thank you.
C'est un encadrement dans lequel il y a une image photographique. Et cette image photographique, présentement, est noir et blanc. Et elle est l'image d'un projecteur de théâtre d'ombre indonésien, projecteur qui est éteint. C'est un objet particulier dans le sens, alors qu'il est normalement caché et richement orné. Donc il y a une idée de cacher, de générer une image, potentiellement une image. Cet encadrement a quelque chose de très particulier, c'est son mode d'accrochage qui est très visible, il est par au-dessus. Et le collectionneur doit activer cette pièce puisqu'il s'agit d'un diptyque photographique. On ne voit qu'une seule image, mais il y en a deux. Donc je vais le manipuler.
Et puis il fait à chaque fois aussi une sorte de performance en manipulant une œuvre que lui seul peut manipuler avec les gants blancs.
Je viens doter le cadre de deux pitons qui sont au mur. Là, je retourne des petites excroissances métalliques. Et là, je vais retourner physiquement l'œuvre. Donc, je présenterai en quelque sorte son dos, mais qui devient sa face. Je la réencoche. Et là, l'image noir et blanc a complètement disparu au profit d'une image couleur. Vous avez Aurélien Froment qui est en train de se battre contre un grand passe-partout qui a servi à une performance qu'il a réalisée avec Pierre Le Guillon, où les ouvertures du passe-partout génèrent des ouvertures dans l'image ou obstruent l'image. On est de nouveau sur un principe de propagation ou non d'une image. Et ça, c'est un objet qui est pratique pour parler aux gens. Parce que ce geste est tellement étrange que quelqu'un s'approche d'une œuvre, la retourne et divulgue une nouvelle image, que généralement une conversation peut naître de là. Et la plupart du temps, je glisse vers, si les gens n'ont pas beaucoup de temps, je glisse vers des œuvres qui sont aussi invisibles parce qu'elles sont trop petites. Et dès lors, on ne les voit pas dans l'exposition.
Il dit volontiers de lui qu'il est un collectionneur conceptuel affectif.
C'est une très très belle définition.
La caricature, c'est un peu ce petit trombone, ce petit morceau de fer, on va dire, de Gerlach & Cope.
Comme cette pièce de Gerlach & Cope, qui est un duo d'artistes hollandais, qui se trouve sur l'arête de ce mur, et qui est en fait un trombone, un attache-trombone ouvert, déployé. Cette attache trombone est juste maintenue par deux scotchs, donc ce sont des objets extrêmement quotidiens. Et en fait, Gerlach & Cope, en ouvrant cette attache trombone, se sont rendus compte que le format de cette attache trombone correspondait très exactement à leur différence de taille. Donc on est sur un objet qui symbolise à la fois leur différence, mais aussi qui les rassemble corporellement.
Qu'on avait présenté ici aussi pour les trois collectionneurs, la première édition.
Olivier Gévard.
Alors voilà, c'est un petit morceau de métal accroché sur un coin de mur avec deux papiers collants qui est presque devenu emblématique de sa collection. Alors c'est une œuvre vraiment tout petite qui, si on ne l'explique pas, si on passe pas par une médiation, que ce soit par lui ou un autre, on ne la comprend pas. Mais dès qu'elle est expliquée, on ne voit plus qu'elle et on ne retient plus qu'elle surtout. Nous, on avait eu un groupe d'étudiants qui était venu ici, on présentait une trentaine d'œuvres, étudiants de 14-15 ans, et c'est là que le lien affectif est très fort. On leur a demandé après quelle était l'œuvre préférée. Il y avait des œuvres très marquantes, un portrait au sang de Michael Matisse, d'un collectionneur, des choses comme ça. Pour une partie, surtout, oui, il y a 14-15 ans, pour une partie d'eux, c'était l'œuvre la plus marquante était cette œuvre-là, parce qu'elle était poétique, affectivement marquée. Et donc Christophe a un lien très fort avec ses œuvres, ça c'est sûr et certain, même si elles peuvent être très minimales et très conceptuelles.
Cette petite baguette métallique est exactement accrochée à, pour sa partie basse à la hauteur de madame, alors que la partie haute arrive à la hauteur de monsieur. Donc c'est un autoportrait corporel amoureux, totalement conceptuel. Je suis démasqué. C'est du conceptuel tendre. C'est le conceptuel que je préfère. En tout cas, c'est celui que j'accompagne. Je n'appartiens pas à la génération des gens qui ont fait un conceptuel âpre. J'aime les gens qui ont matiné ce conceptuel de sentiments. Je pense qu'ils correspondent plus à ma manière d'être aussi.
Conceptuel affectif.
Je suis un gros conceptuel affectif aimant le chocolat.
Collection invisible, mais je pensais à ce Christophe Weiss il y a quelques années qui était galeriste dans une galerie qui portait le nom de témoin oculiste. Mm-hmm. Donc on est toujours avec la question des yeux.
Des yeux, en effet.
Karine Foll.
De rendre visible l'invisible, pour reprendre aussi quelque chose que j'avais déjà fait dans une autre exposition qui s'appelait Mindscapes. C'est-à-dire que le collectionneur joue aussi le rôle de passeur par rapport à l'artiste qui travaille dans son univers, qui n'a peut-être pas toujours cette possibilité de pouvoir le montrer au public, ou cette envie même parfois, et que le collectionneur, dans ce cas-ci, joue ce rôle de passeur, comme le galeriste le fait également. D'ailleurs, ce trio est important, hein, le trio entre l'artiste, le galeriste et le collectionneur est très très important.
Et pourquoi des pièces de monnaie sur le mur ?
Elles sont sur une plateforme, plus que sur le mur. D'abord, en termes de modalité de présentation. Je trouvais intéressant, dans une expo qui parle de collection, de montrer des objets que d'autres personnes collectionnent. Les pièces de monnaie, les cartes postales sont des objets que les gens collectionnent. Et ici, c'est une pièce de Roman Ondak qui s'intitule Pocket Money of My Son, l'argent de poche de mon fils. Et donc, vous avez une série de pièces slovaques, de la petite monnaie slovaque qu'il a réellement volée à son fils. Donc il y a un basculement, normalement c'est le père qui doit aider ou contribuer à l'aide matérielle de son enfant. Ici c'est le fils qui, et ce n'est pas désiré par l'enfant, aide son père. Et la plateforme est une plateforme qui est très intime, dans le sens où c'est leur table de petit déjeuner, qui a été découpée en différents fragments. Et ces fragments servent à recevoir les pièces. Donc on est vraiment dans une pièce qui est extrêmement intime. Et ce qui m'intéressait, moi, c'est ce simple basculement des valeurs, en fait.
Mais, Christophe Weiss, vous vous rendez compte que sans votre récit, l'œuvre ne parle pas. C'est vous qui faites, par le récit, qui faites la généalogie et le futur de l'œuvre.
Oui.
Et sa préhension, il n'y a pas un problème ?
Il n'y a aucun problème. Donc, en fait, non. Il se trouve que c'est probablement un des fils conducteurs de la collection. C'est un paradoxe total. Je suis un collectionneur timide, mais j'affectionne les pièces qui sont elles aussi timides et qui ont besoin d'une sorte d'ambassadeur pour basculer vers une sorte de transmission. Dans le cadre de la transmission, pour moi, c'était essentiel. Étant enseignant, c'était essentiel qu'il y ait une transmission. Et elle passe par deux vecteurs. Une lettre de 4 pages que j'ai écrite pendant 4 mois, adressée aux visiteurs les jours où je ne suis pas là. Et ma présence très physique et timide dans l'exposition pour révéler la nature des pièces. Il y a aussi quelques pièces qui sont des portes d'entrée peut-être plus simples visuellement. C'est le cas notamment de la pièce d'Edith de Kint, où c'est une photographie d'une tulipe qui est encapsulée dans de la gelée alimentaire, et par un jeu de lumière, elle est en train déjà de se dissoudre en quelque sorte. Et il y a une très belle poétique dans cette pièce. Donc ça, c'est une pièce qui est séduisante visuellement, mais qui a néanmoins tout un champ conceptuel qui l'accompagne, mais c'est peut-être à nouveau une porte d'entrée dans l'expo.
Olivier Gévard, comprendre ce qu'est un collectionneur, c'est...
Mais là, plusieurs des collectionneurs disaient, par exemple, être collectionneur, c'est quand on n'achète plus des œuvres pour... On ne sait plus où on les met, par exemple. on n'a plus assez de murs. C'est indépendant de l'endroit où on va les placer. D'autres disent c'est une collection d'idées plutôt. Donc c'est pas important d'avoir la collection accrochée autour de soi. Elle peut être en stockage. D'autres ont créé des espaces pour montrer leur collection. Donc, en tout cas, dans les 11 collectionneurs là, chacun a sa manière et sa définition de collectionner et d'être collectionneur.
L'engagement, je crois, c'est la question de la figure de l'engagement. Comme je suis enseignant et j'ai vu des gens très talentueux cesser de produire parce que il n'y avait pas exposition, parce qu'il n'y avait pas encouragement de la part d'un collectionneur, c'est essentiel pour moi d'être aux côtés des artistes et de au-delà de simplement dire « ton travail est fabuleux, ça me bouleverse », d'une certaine manière me sacrifier, parce que financièrement, c'est pas simple d'être collectionneur, d'acheter les pièces et d'essayer d'avoir une relation la plus continue possible. Alors, cette relation peut parfois se briser parce que, comme Roman Ondak, par exemple, je crois que j'ai 5 pièces de Roman. Maintenant, c'est beaucoup trop cher, simplement. Donc, je ne pourrais probablement plus en acheter.
Ce que vous dites là, Christophe, c'est ce que Yolande Bontrider dit aussi, c'est qu'elle ne peut plus aujourd'hui acheter des artistes qu'elle achetait jeune.
Oui.
Il n'y a pas un problème du marché de l'art?
C'est de l'offre et de la demande, à un certain moment. Simplement ça. Il y a beaucoup de gens qui commencent à s'intéresser à un artiste et c'est logique que les prix augmentent et si j'étais là au départ, je dois être juste très heureux d'avoir été là et d'avoir eu la présence d'esprit d'acheter et d'essayer d'acheter plusieurs œuvres pour constituer un ensemble. Ça me semble capital. Et oui, je suis malheureux en partie de ne pas avoir plus d'œuvres de Roman, mais peut-être qu'un jour j'arrêterai une année un peu à la Herman Daled de collectionner plein de gens et me concentrer juste sur une personne. Je crois que je suis trop gourmand pour faire ça, mais ce serait peut-être un pacte à faire avec un artiste.
Dans cette émission, Olivier Gévard, Christophe Weiss évoque la figure d'Herman Daled comme une figure tutélaire du collectionneur. Qu'est-ce qu'il entend par là, d'après vous?
D'abord, il n'aime pas le mot collectionner. Herman Daled, il dit collecter, plutôt. Et rien n'était accroché au mur chez lui. Alors Herman Daled, c'est une figure tutélaire pour plein de raisons. D'abord parce qu'il était dans une époque assez incroyable. Une grosse partie de sa collection, c'est 66, 67, 77, avec Nicole Daled. Très proche des artistes. Donc c'était plus que acheter. Il raconte toujours cette anecdote que chez lui, il y avait du bon vin, il avait une jolie femme. C'est ce que les artistes disaient, ce que Brotard disait notamment. Il aidait à la production, ils n'hésitaient pas à faire des choses assez incroyables en termes de protocole avec les artistes. Donc il y avait un accompagnement, donc c'est vraiment beaucoup plus qu'acheter une œuvre. Rien d'accroché au mur, tout dans des sacs Adidas, des sacs Carrefour, et une collection très personnelle, puisque dans ces années-là, anti-bourgeoise certainement, il y avait une réaction à ça chez lui, donc un sens aussi important pour lui. Donc je crois que ça reste vraiment la figure tutélaire pour beaucoup de collectionneurs. Moi, par exemple, je trouve que son engagement vis-à-vis des artistes, à côté des artistes, quand on a créé l'été 78, c'est quelque chose que j'avais en tête. C'est comment aider les artistes autrement que par simplement l'acte d'achat, par exemple.
Herman Daled, c'est vraiment une figure essentielle dans ma construction de collectionneur. J'ai fait un mémoire sur Plus Moins Zéro, qui était une revue d'art contemporain belge qui a fonctionné de 1973 à 1993. Donc Herman Daled était aussi une sorte de personnage en creux de ce mémoire par les personnes qui étaient mises en avant dans Plus Moins Zéro.
Des points d'attention communs, certainement, sur notamment tout ce qui est, je pense, au langage. Je pense à Détani Coëlin qu'on a en commun, Aurélien Froment que nous avons en commun aussi. Un aspect minimal, certainement dans la présentation aussi. Je pense à Edith de Kint aussi, il y a pas mal d'artistes. Et puis on a des grands points de discorde.
Ah oui, la collection d'Olivier est une collection que j'apprécie particulièrement parce qu'elle se déploie dans différents axes et dont certains axes rencontrent la mienne. On a des artistes en commun, ne serait-ce que sur cette expo-ci, où on montre tous les deux Aurélien Froment et Détani Coëlin, par exemple. Il y a tout un pan sur la question du langage, qui est un axe assez important dans ma collection. Et il y a un engagement sociétal qui est fort dans le travail de collectionneur d'Olivier, qui est peut-être un engagement qui ne se matérialise pas dans ma collection.
Et nous, pour le moment, on développe dans la collection, on va l'appeler comme ça, malgré tout une thématique beaucoup plus socio-économique depuis quelques années, qui est moins présente, en tout cas pas de manière aussi directe peut-être chez Christophe Weiss que chez nous. Mais certainement, il y a toute une partie qu'on a en commun. Oui. On s'est fait découvrir même l'un l'autre, je pense à Admet Hall aussi, assez récemment ça.
Oui, aussi un collectionneur engagé, Olivier Gévard, qui a un espace, été 78.
Oui, tout à fait, et qui lui aussi travaille parfois avec des artistes qui sont en résidence au Wills, par exemple, qui ouvre son espace à des artistes pour des projets bien précis, qu'il monte avec eux. Donc c'est pas simplement accueillir une exposition, mais il y a toute une réflexion derrière. Aussi la fascination que lui a pour les collectionneurs, en montrant trois collectionneurs, mettant en avant la passion de ces personnes-là, dans leur spécificité, dans leur identité.
Donc on a ouvert cet espace il y a 4 ans, qui est pas très loin de la maison, qui est vraiment un espace de mécénat pour permettre essentiellement à des artistes, alors l'âge n'est pas très important, mais il se fait que c'est plutôt des jeunes artistes en effet, de réaliser des projets in situ qu'ils ne pourraient pas réaliser a priori ailleurs, puisqu'il n'y a rien à vendre. S'ils vendent, c'est 100% pour eux, on finance de la production, on finance le vernissage, de la communication. Donc le but, c'est vraiment, le premier but, c'est pour l'artiste de travailler indépendamment de tout objectif. Ça peut être des brouillons, ça peut être des travaux en cours, des nouvelles manières d'accrocher, des tests, mais ça doit être des œuvres finies plastiquement malgré tout. Donc on peut montrer le cheminement pour arriver à une œuvre. Je pense à Marc Wendelski qui avait fait tout un accrochage, qui se pose beaucoup de questions sur comment présenter la photo aujourd'hui, numérotée, pas numérotée, encadrée, pas encadrée, poster. L'espace est aussi dédié une fois par an, on présente des collections privées. Des plutôt inconnus. Mais donc nous, notre forme d'aide aux jeunes artistes qui est très 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 importante, bon, il y a des acquisitions et des achats, mais c'est surtout tout ce qu'on développe avec eux à l'été 78. Et comme chaque projet prend environ 18 mois de préparation, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'artistes me disent ça nous donne aussi un objectif. Alors j'ai aucune prétention ni curatoriale, ni de conseiller, ni de quoi que ce soit. Les échanges que nous avons, c'est vraiment plutôt des questions-réponses, une vraie discussion, et puis eux en donnent leur forme plastique. Mais c'est vrai qu'on le fait avec, donc il y a des expos de 5 semaines, il y a des expos de quelques jours, il y a parfois une soirée.
Plusieurs collectionneurs qui sont présents dans cette exposition ont ce besoin d'être passeurs et de Van Arens aussi, par exemple, qui a un lieu qui est ouvert au public, Alain Servet qui a son loft qui l'ouvre au public. D'autres sont plus confidentiels, mais ont quand même un lien très fort avec les artistes.
La collection que vous avez vient-elle de ces expositions que vous organisez ?
Assez systématiquement, une œuvre entre chaque fois dans la collection, ou plus ou moins chaque fois dans la collection, suite à ces expositions-là. Parfois, ça fait d'ailleurs partie, quand il y a une production plus importante, il est arrivé plusieurs fois qu'on demande à l'artiste de nous offrir une œuvre de son choix. C'est même pas qu'on l'a choisie nous-mêmes. Mais ça permet peut-être une forme d'échange sans obligation. Et sinon, assez souvent, au terme de l'exposition, j'acquiers une œuvre. Puisque la programmation est faite par nous, quand je dis nous, c'est mon épouse et moi. Donc ce sont, jusqu'à présent, ça n'a été que des choix personnels. Ça veut dire que ce sont des choix vers lesquels on est assez enclin, en tout cas avec une bienveillance et un certain positivisme. Donc on s'est déjà posé la question, est-ce qu'on organise une expo avec un artiste qu'on n'aime pas ? Par exemple, ce qui pourrait être intéressant aussi, mais jusqu'à présent, ce n'est pas encore arrivé.
Vous parlez de votre épouse. Comment cette collection que vous avez s'élabore entre vous deux ?
Alors, c'est une bonne question. Alors, tout ce qui est l'acte d'achat, d'acquisition, je le fais seul en discutant avec elle, mais c'est plutôt ma décision. Par contre, toutes ces décisions sont nourries de toutes les discussions que nous avons ensemble, notamment sur ces thèmes aujourd'hui plus socio-économiques, plus d'actualité. Et donc tout le discours qu'il y a en amont qui me permet une acquisition est fortement influencé par par notre vie commune, par exemple, ou par nos intérêts communs ou nos questionnements communs. Mais on n'achète pas à deux.
Vous défaisez-vous de pièces pour en acheter d'autres ?
Jamais de la vie, soyons clairs.
Christophe Bay.
La collection, c'est une forme d'autoportrait en creux, en quelque sorte, et dès lors, se séparer d'une pièce, c'est comme gommer un passage entier de sa vie. Peut-être que certaines personnes arrivent à faire ça, je veux dire gommer des pans entiers de leur vie, mais ce n'est pas du tout ma manière d'appréhender le monde. Quand on fait une erreur, on ne revient pas sur cette erreur, on l'assume, on vit en sa compagnie. La première œuvre a été une erreur, ça a été très formateur. Il y a eu d'autres erreurs, il y a eu des petites choses où j'ai voulu cristalliser un moment dans ma vie. Je visitais une expo, j'étais très heureux, j'ai acheté des œuvres pour capturer ce moment. Mais maintenant que je regarde les œuvres, le moment était plus beau que les œuvres, en fait, simplement. Mais ces œuvres, elles sont toujours dans la collection, parce qu'elles racontent la vie du collectionneur.
Karine Folle, pour qui nous écoute et qui voudrait tenter une collection, venir voir cette exposition va de soi, mais il n'y a pas d'école de collectionneurs, il n'y a pas de formation.
C'est une passion. Alors certains collectionneurs sont nés dans des familles de collectionneurs, avec des familles, des parents qui avaient déjà une collection, donc ils sont nés là-dedans, ils ont déjà cette ouverture. D'autres ont commencé vraiment de rien, avec très très peu de moyens. C'est un virus, comme on le dit très souvent, qui montre aussi une certaine obsession dans certains cas, parce que ça devient quelque chose d'obsessionnel. Il faut absolument avoir cette pièce-là, quitte à même casser sa tirelire et aller très loin dans les dépenses pour pouvoir l'avoir. La différence aussi avec des professionnels de l'art, c'est qu'eux, ils ont une liberté totale que nous n'avons pas toujours, que les directeurs de musées qui font des acquisitions pour des collections, qui s'inscrivent dans une recherche, dans une volonté aussi de démontrer ce qu'est l'art actuellement, les collectionneurs ont cette liberté extraordinaire de pouvoir acheter ce qu'ils veulent dans la possibilité qu'ils ont financière. Mais cette liberté, je crois que c'est un cadeau magnifique.
La Centrale pour l'art contemporain à Bruxelles, jusqu'au 27 mai, 11 collections bruxelloises d'art contemporain.
Et donc, j'aime que les collections soient comme les gens, complexes et différents de moi. Donc, bien entendu que la collection d'Olivier est pour moi un bonheur, avec quelques, on va presque dire, mésententes. C'est-à-dire que lui peut ne pas comprendre mon attachement pour tel artiste, et à l'inverse, moi, je ne comprends pas toujours, et je me moque abondamment de certaines passions qu'il éprouve vis-à-vis de tel ou tel artiste. Et puis, Olivier, il y a une histoire particulière entre nous, c'est que je donnais des conférences, on s'est rencontrés au travers de ces conférences, et par ailleurs, j'ai eu le bonheur d'être l'un des premiers collectionneurs à être invité à 3 collectionneurs autrement.
La Centrale pour l'art contemporain à Bruxelles, jusqu'au 27 mai, 11 collections bruxelloises d'art contemporain.
Oui, je me souviens d'une exposition qui a eu lieu il y a 1 an et demi, 2 ans, de Marc Wadelski, qui a fait tout un travail dans une forêt qui allait devenir être un immense charbonnage à ciel ouvert.
Oui, oui.
Et c'était des occupations de...
D'altermondialistes, oui. Et ça, c'est... Donc on montre une photo là, qui est un portrait en pied assez magnifique. Donc Marc Wadelski est allé sur place. C'est une forêt en Allemagne, en effet, qui est en train de... Une forêt très ancienne, en train de disparaître, puisque des mines de lignite... Comme l'Allemagne a des... Donc il y a toutes des implications à tout ça. L'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire, donc le charbon en devient l'alternative. Donc il faut étendre les mines de lignite, donc on détruit des forêts complètement ancestrales. Et il se fait qu'il restait quelques, je crois, dizaines, peut-être centaines d'hectares au début de forêts qui allaient être détruites. Et ce lieu est devenu à polariser, un peu comme Notre-Dame-des-Landes, à polariser l'attention d'altermondialistes, d'abord allemands, mais après internationalement, qui sont venus défendre cette forêt
pieds et mains liés, c'est vraiment le cas de le dire. Donc il s'attachait aux arbres, il se bétonnait les mains dans les arbres, comme ça quand la police arrivait, il n'y avait pas moyen de les déloger, des cabanes dans les arbres. Et ils perdent petit à petit face au bulldozer et face à cette puissance. Et Marc Wendelsky est allé là-bas pour prendre ses portraits, a dû travailler dans le camp. Donc généralement, en échange d'un portrait, il devait faire la vaisselle, il devait nettoyer des choses. Donc en plus, il y avait un certain engagement personnel. Et les portraits sont assez fantastiques. Et donc nous, on montre Elmeu de plein pied. Alors, certaines personnes m'ont dit, on dirait qu'il est habillé en Dries Van Noten. Enfin voilà, il est fantastique, il a un vêtement absolument incroyable. Et alors, il y a ce décalage du commentaire par rapport à... mais qui est assez drôle. Mais ça montre vraiment en un portrait, je trouve, tout un combat économique, tous des choix sociétaux et des choix économiques qu'un pays peut faire ou que le monde peut faire. Ouais. Et c'est un super travail.
Avec Karine Foll, Yolande Bontrider, Constance Godot, Olivier Gévard et Christophe Weiss. Le Monde Invisible est une émission de Thierry Genicot. Le Monde Invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.
Cette amitié qu'il y a entre certains collectionneurs et certains artistes est très importante. Comme je disais tout à l'heure, ça casse cette idée du collectionneur fortuné qui achète des œuvres pour spéculer. C'est vraiment une prise de risque. C'est d'une grande liberté, une grande créativité et une grande proximité avec les artistes.